Il est 16h43. Hey, juste vous dire que les Américains se sont réveillés un peu. On termine la deuxième période. C'est 3-1 pour l'équipe de hockey masculine.
4-1.
4-1 face à la Lettonie. Ben oui, je suis en train de regarder le quatrième but au moment même où je vous parle, à 11 secondes de la fin de la deuxième période.
T'es-tu en train de nous dire que t'as mis ça sur ton sel, toi, là?
Non, non, je fais autre chose.
Moi, au moins, j'ai le...
Ah! Là, tu nous as enlevé notre son des écouteurs.
T'as tout brisé.
Ben ah, merci.
Moi, au moins, je suis sur le site officiel des Olympiques. Fait que je regarde pas la partie, je regarde juste des chiffres.
Non, non, nous, on a la TV avec les nouvelles, puis Denis son seul, puis écoute la game.
C'est quel joueur des Browns qui joue dans ces équipes-là?
Non, non, mais je voulais juste suivre la game parce que, pour vrai, après une période, que ce soit seulement 1-1 entre la Lettonie puis les États-Unis, moi, des upsets, je trouve ça drôle au hockey, mm-hmm. particulièrement contre les États-Unis et toutes mes excuses, Véro, le Canada aussi. Je trouve ça drôle quand les grosses équipes arrivent avec le gros sabot puis leur grosse puissance.
L'as-tu vu notre grosse équipe un matin?
Ouais, mais mettons qu'ils perdent demain contre la Suisse. Là.
Moi, comment t'as trouvé ça?
Il y a plein de monde qui vont être fâchés, puis moi, je vais trouver ça drôle.
Comment t'as trouvé ça de voir Pastrniak puis Brad Marchand sur la même glace, mais pas jouer ensemble?
Ben, je suis habitué, là, ça fait 2 ans.
Ouais, vu de même.
Je t'ai dit ça de même. Brad Marchand est rendu avec les Panthers.
Mais là, il fallait qu'on prenne pour Brad Marchand. Nous autres, c'était bizarre.
Hey, on regarde ce qui se passe dans la circulation. Audrey.
C'est vraiment épouvantable. Honnêtement, peu importe vous êtes où en ce moment, là, c'est catastrophique.
Ben voyons, c'est quoi qui s'est passé là?
Non, mais ça fait longtemps que ça n'a pas été rough de même. Je te dis, ouvre ta
carte. Quand tu le dis même, on dirait que le pont s'est effondré.
Mais le pont, c'est pas effondré. Il manque juste ça.
C'est pas effondré.
Non, mais sans blague, là, en ce moment, mettons la capitale, dans les deux directions, super difficile. Direction est entre Henri IV et Laurentienne, ouest entre Beau-Royal et Laurentienne. Robert Bourassa, entre Boulevard Laurier, mettons, et la capitale. Très difficile. À vous, Véro, hein?
Il y a plein de petits accidents. Il y a oui. De petites icônes de char.
Mais le pire, c'est que quand je regarde sur le Twitter du 511, il y a une affaire encore en vigueur. C'est Charest Est, hauteur Henri IV, voie de droite du centre bloqué accident.
Je comprends ce qui s'est passé.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Je comprends ce qui s'est passé. On ramène les gens vers le centre. Oh, qu'est-ce que ça fait?
Des accidents.
Ben là, c'est parce que tout le monde se ramasse en même
temps
qu'en même temps.
Il faut surveiller les angles morts.
Je comprends que les 15 dernières minutes de radio ont créé une commotion sur le réseau routier
on
de la
désolé.
Grande région de Québec. Mais tant mieux. Tant mieux. Je veux dire,
ben
c'est,
oui.
En soi, on est pogné dans le trafic, mais c'est quand même une bonne nouvelle sur le fond.
S'il n'y a personne de blessé, on est en bonne place.
Les gens reviennent à la raison tranquillement.
Ouais,
c'est
ouais.
une bonne affaire.
Charest, hyper difficile si vous êtes sur Henri IV Sud, vous allez chercher la bretelle pour Charest direction ouest à partir de là, mettons, dans bretelle, là, jam-pack, jusqu'à peu près Jean-Gauvin. L'entrée des ponts direction sud pour vous rendre au pont La Porte surtout, que vous soyez sur Duplessis ou Henri IV à partir de Charest, c'est le bordel. Des problèmes sur la 20 direction ouest entre la route du président Kennedy et Taniata. Quelques problèmes aussi sur Guillaume Couture à la hauteur de chemin du Sceau. D'ailleurs, sur du Sceau, des problèmes à la hauteur de la 20, ce qui est très inhabituel. Plus haut, dans le nord, c'est Henri IV. Henri IV Nord, hauteur de la capitale, il y a un certain ralentissement. Toujours sur Henri IV Nord, dans le coin de Val-Bélair, entre Sainte-Geneviève et l'avenue industrielle, boucher ben raide. Devant la base militaire, route de la Bravo dans les deux directions. Excessivement difficile, ça décolle pas. Puis pour ce qui est de la route de Fossambeau, entre des Érables et de la Jacques-Cartier, toujours problématique aussi. Ça, c'est comme les grandes artères. Si vous avez des affaires un peu plus précise à me partager. 88-971-1021 texto.
Judith Demeule est journaliste judiciaire pour Le Soleil. Elle est en studio avec nous. Salut, Judith.
Allô.
Ça va bien?
Ça va bien, toi?
Oui, ça va. Un petit peu fatigué. Je sais pas si... Okay. C'est comme si je m'étais emporté là, dans la dernière demi-heure. Là, mais je suis revenu à la raison si jamais t'étais inquiète.
C'est ramené.
Ça ouais. va.
retournement de situation majeure dans les 24 dernières heures dans, le, dans le dossier de Régent Le Père Noël est une ordure Bacon.
Oui, on s'attendait à un procès de 6 semaines, je vous rappelle, un long procès. Et finalement, M. Bacon a décidé de plaider coupable hier soir. Les ordonnances ont été levées ce matin. Et donc, la nouvelle a été sortie ce matin et le jury a été remercié.
Oui, parce que quand tu es venu nous voir, on avait terminé la sélection des jurés. Ça veut dire qu'on était somme toute avancée dans le processus malgré tout. Hein?
Oui, tout le monde avait été appelé lundi. On avait fait la sélection puis on devait commencer ça ce matin. Puis mardi et mercredi étaient des journées pour régler des requêtes.
Okay.
Et ce qui est arrivé, c'est que pendant... l'audition de ces requêtes-là. Il y a des choses qui sont passées. Je vais vous expliquer qui a fait en sorte que Régent Bacon a poursuivi sa réflexion et a décidé d'admettre qu'il avait commis les crimes.
Fait qu'encore hier après-midi, c'était un gars qui voulait plaider non coupable puis faire en sorte qu'il y ait un procès.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui est arrivé qui l'a fait changer d'idée comme ça?
En fait, ça, c'est un dossier qui roule depuis 2022. Ça fait longtemps. Le procès était censé être fait l'an dernier. Donc, puis comme ça allait devant jury, il n'y a aucune information qui sont sorties jusqu'à maintenant. On savait qu'il était accusé d'agression sexuelle, de voyeurisme, proxénétisme et possession de stupéfiants. Puis, au cœur de cette affaire-là, ce qu'il y avait, ce sont des vidéos. Réjean Macon, ce qu'il a fait, c'est qu'il a filmé des agressions sexuelles, lui en train d'agresser des femmes qui étaient très intoxiquées à un point d'être inconscientes, voire inertes. Puis, il filmait ça et dans son rôle de Père Noël, de bon samaritain, voulait montrer les vidéos ensuite à ces femmes-là, qui n'avaient aucun souvenir parce qu'elles dormaient littéralement pendant les agressions, pour leur montrer les effets néfastes de la drogue.
Ça, c'est son narratif à lui, là.
C'est toujours à ce jour.
C'était sa justification qu'il donnait.
À ce jour, c'est ce qu'il pense.
Je vais lui donner une bonne leçon. Je vais l'agresser sexuellement pendant qu'elle est dans le coma à cause des drogues.
C'était même pas ça. Non? C'était... Elle ne sait pas ce que ça fait, le GHB. Elle va s'intoxiquer au GHB et moi, je vais l'agresser pour lui montrer qu'elle peut se faire agresser.
C'était pas pour profiter d'elle pantoute, là.
Non,
c'est on parle un peu de...
C'est tordu, là.
Attention à mes mots, là. C'est, je veux dire, il y a des gens qui ont parlé à ma place durant ces audiences-là aujourd'hui, mais c'était d'une absurdité qui dépasse l'entendement.
Parce que lui, aujourd'hui, a pu s'adresser à la cour.
Oui, on offre la chance à tout délinquant de le faire.
Lui
est condamné.
A donné ça comme explication.
Oui.
Comment ça a été pris, là? Comment ça a réagi?
Bien, en fait, là, depuis un an, tout le monde est très poli avec lui parce que Réjean Bacon bénéficie de la bénédiction d'innocence. Puis, donc, quand il donnait ces explications-là, depuis un an, parce que lui, c'était sa défense, le juge restait patient. Et lui
il
donnait
pas
la parole,
mort, il
entendait les requêtes, parce que, bon, cet homme-là, il peut être innocent. Puis, quand les plaidoyers de culpabilité ont été enregistrés, on a vu un juge qui a perdu patience et qui l'a laissé s'exprimer, là, même, quand même longtemps, jusqu'à temps de dire, là, non, là, c'est assez.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Premièrement, il lui a coupé la parole parce qu'il est comme parti en disant qu'il n'a jamais été violent avec les victimes. Et là, le juge, il a dit pardon. Vous ne trouvez pas qu'une agression sexuelle, c'est violent? Et que ça a commencé comme ça. Puis là, après ça, il a dit, je voulais les aider. Le juge lui a répondu, moi, ce que j'ai vu, parce que le juge, il les a vus, les vidéos. Il a dit, c'est pas de l'aide. Si c'était ça de l'aide, vous auriez dû laisser faire.
Les vidéos, c'est... Combien de temps et combien de personnes?
C'est 11h30 de vidéo d'agression sexuelle. Puis ce qui est arrivé mardi-mercredi, c'est qu'il y avait une question à savoir si les vidéos allaient être présentées à huis clos à ce jury-là, parce que les vidéos étaient au centre de la preuve et devaient être présentées selon la poursuite. C'est eux maîtres de leur preuve, c'est eux qui décident. C'est des vidéos difficiles, des images explicites, indécentes, qui te vont te faire des cauchemars.
Tu les as vues, toi?
Je les ai pas vues. Okay. Parce qu'elles sont restées... Il y avait juste le juge, les policiers, puis les avocats qui les avaient vues. Et puis là, venu le temps de dire, bon, est-ce qu'on présente ces vidéos-là à huis clos? Puis là, il y a eu des requêtes à savoir, bon, est-ce qu'on fait un huis clos? Est-ce qu'on le fait pas? Les médias, ils ont dit, ben, on veut pas de huis clos parce que c'est caché un petit peu des informations. Donc, il y avait des discussions par rapport à ça. Et pour traiter de cette question-là, du huis clos, on a montré les vidéos au juge, mais sinon, le juge les aurait vues en même temps que tout le monde pendant le procès. Et c'est quand le juge a pris connaissance des vidéos qui semble avoir eu un changement là, dans la manière d'approcher ça, parce qu'il y a eu des réactions vives dans la salle. Nous, on était à l'extérieur, évidemment, mais on a vu tout le monde sortir de la salle ensuite. C'était pas un bon moment là, qui s'était passé.
Il y a juste et le juge qui regarde
ses... Le juge
ses...
et le personnel judiciaire, les avocats, l'accusé.
L'accusé voit l'accusé les vidéos voit aussi.
Puis il voit les réactions.
Oui, voit les réactions. Donc, c'est un peu ça qui on pense, a fait mûrir sa réflexion de se dire, bon, si on présente ça à un jury, ça peut être catastrophique. Et donc...
Il s'est probablement vu dans les vidéos, puis il s'est dit, ouais, mon explication, probablement qu'elle ne tient pas à route.
Bien, je pense pas qu'il a pensé ça, parce qu'il l'a encore
justifié. Il a répété ça aujourd'hui.
Il l'a répété, puis même si le juge lui disait ça n'a pas de bon sens, il continue à le penser, puis il est revenu au fait qu'il était le Père Noël, et il termine sa déclaration en disant qu'il
j'espère que cette histoire-là n'aura pas terni l'image du Père Noël. Et puis là, le juge, vraiment, là, il a laissé tomber ses mains sur la table et il a dit, là, un instant, là, vous êtes Régent Bacon. Le Père Noël est un personnage imaginaire et vous allez arrêter de vous comparer à ça et d'utiliser ce personnage-là pour justifier. Parce que lui, il disait, moi, j'ai fait le bon toute ma vie, j'ai agi de Père Noël, j'ai combattu des injustices sociales, je me suis battue pour les enfants, pour ci, pour ça. Puis le juge était là, tout ce que vous me dites, ça importe peu. Parce que moi, ce que j'ai vu durant assez longtemps, il n'a pas vu l'entièreté des 11h30 de vidéo, mais il en a vu assez pour se faire une tête. Et c'était... pour avoir parlé aux enquêteurs de police, c'est parmi les dossiers les plus sensibles qui a été traité.
Je ne sais pas si tu as la réponse à cette question-là, parce que je te l'ai posée puis je n'ai pas entendu la réponse. Il y a combien de filles sur ces vidéos-là?
Oui, pardon. Il y en a 6 qui ont été identifiées. En fait, ouais, il y a 6 victimes officielles.
Mais il y en a d'autres?
Il y en a qui n'ont pas été identifiées, oui.
Jamais?
Ou qui ne voulaient pas porter plainte, okay. Là, je... L'histoire ne le dit pas, comme elles ne sont pas impliquées dans l'affaire.
C'est sur une période de combien de temps?
C'est entre 2015 et 2021.
Il y avait un appartement à Sainte-Foy?
Appelé la commune. Parce que lui hébergeait tous ceux qui avaient besoin d'aide, comme je vous dis.
Il spottait du monde
il
vulnérable.
Il était un sauveur.
Mm-hmm. Ouais. À partir du moment où il y a un plaidoyer de culpabilité, tout le monde revient en salle aujourd'hui. Les victimes sont là?
Oui, on était... Parce que hier, il y a eu le plaidoyer de culpabilité rapidement, puis on a laissé le temps aux victimes de venir au palais de justice parce que... Puis c'était beau parce qu'elles voulaient être là. Mm-hmm. Parce que eux, faut savoir que... Puis c'est très délicat, là, mais elles savent pas ce qu'elles ont vécu.
Mais elles n'ont que souvenirs.
Elles n'ont pas de souvenirs et on leur a dit les grandes lignes, mais elles ne les ont pas vues, les vidéos. Là. C'est pas quelque chose qu'elles voulaient voir. Okay. On leur a proposé.
S'il y avait eu un procès, elles auraient eu à voir ces images.
Non, elles pas nécessairement. Pas nécessairement. De pas l'être. Okay. Parce que leur témoignage était basé sur ce que eux avaient vécu et ce dont ils se souviennent. Parce que tu peux pas témoigner sur quelque chose que tu te souviens pas de toute façon. Mm-hmm. Puis les vidéos allaient être présentées ensuite pour appuyer leur témoignage. Et à ce moment-là, elles auraient décidé si elles voulaient être présentes ou non. Et elles voulaient être présentes parce que c'était un petit peu pour clore ce chapitre-là qui est encore un peu nébuleux pour eux. Mm-hmm. Puis là, elles ont entendu qu'elles ont vécu des choses horribles. Horribles, c'est tellement que le juge l'a répété et a dit quelques segments là, en faisant un sermon un peu à Régent Bacon. Et je pense que c'était suffisant, il ne fallait pas aller plus loin. Et je pense que personne ne veut avoir des images de ces vidéos-là. Mm. Et c'est des gens qui... C'était des gens vulnérables qui étaient dans la consommation beaucoup, d'anciennes escortes pour certaines. Et je pense qu'il y a un travail de se remettre sur le droit chemin qui est enclenché et quand même fragile.
Est-ce qu'il y a ces victimes-là qui ont eu l'opportunité de parler aujourd'hui?
Oui. Il y en a 2 qui ont pris la parole elles-mêmes. D'autres ont donné certains commentaires à la procureure qui a fait le message. Le maître chien était là pour les aider à témoigner. C'était difficile. Somme toute, là, elles ont témoigné de l'abus de confiance qu'elles avaient vécu parce qu'au départ, c'est vrai que Régent Bacon se présentait comme quelqu'un qui allait les aider, mm-hmm. puis les sortir de ce monde-là des stupéfiants.
Grosse manipulation.
Et finalement, il a abusé de cette confiance-là et de leur vulnérabilité.
Souvent, quand il y a des plaidoyers de culpabilité, on se demande est-ce qu'il y a eu des négociations pour des réductions de peine. Dans ce cas-là, précisément, je crois comprendre que non.
Il y a eu une négociation. Il a accepté la peine suggérée par la poursuite, qui est quand même grande. Là, on parle de 15 ans de prison. Puis il l'a dit dans sa déclaration, donc je le dis, là, mais pour lui, la peine, importait peu. Lui, ce qu'il voulait vraiment dire, c'est qu'il avait fait ça pour faire le bien. Et ouais, c'est ça qui était un peu choquant et absurde dans la salle parce qu'il y avait un entêtement à ne pas vouloir admettre que ce qu'il avait fait était mal. Donc, il s'excusait, mais se justifiait. Donc, c'était un peu surréel d'être présent et d'écouter ça parce que il a commencé en disant « Je m'excuse à celles qui se sont proclamées victimes. »
Oh boy. Ça pas de
donc,
bon
ça
sens.
Commence. Déjà, ça commence.
Mal,
je vous le dis, là, souvent, là, vous le savez, là, je vous excuse, je suis capable de mettre les émotions de côté puis de faire mon travail. Mais là, j'avais cliqué sur enregistrer puis je n'étais pas capable de prendre de notes parce que j'écoutais. Puis
c'était sidérant.
Oui. C'est un peu incompréhensible. Puis là, tu vois le juge qui se force à essayer de le laisser parler, mais qui a le goût. t'as les procureurs qui sont prêts de se lever parce que là, t'as les victimes dans la salle, puis tu veux pas
qui entendent ça? Oh mon Dieu!
Donc, c'est vraiment... C'était une bizarre d'ambiance.
J'imagine.
C'était une bizarre d'ambiance. Et quand le juge s'est mis à répondre à la déclaration de Réjean Bacon, tout le monde a fait « OK ». Il va se le faire dire un peu, là, parce que ça n'a pas de bon sens de pas reconnaître. Puis il l'a dit, là, le juge, il a dit, le tribunal est pessimiste là, à l'idée d'une réhabilitation quelconque. Réjean Bacon, aujourd'hui, a 75 ans. Et donc là, il est parti pour longtemps, et je vous l'ai souvent dit, si tu veux être libéré sous condition, avec une libération conditionnelle, tu dois avant tout reconnaître...
Une admission.
Puis il fait pas.
Et pour l'instant, on n'en est pas là. On en est quelqu'un qui a même demandé à suivre une thérapie en prison pour régler son syndrome de l'infirmier. De l'infirmière, c'est comme ça qu'il l'a dit.
Ça, c'est ceux qui sont des.
Il est trop bon.
Les gens, eux qui sont pas capables de pas aider le monde.
C'est un excès de bonté qu'il y a eu. Incroyable.
Hé, mon Dieu, c'est pas possible.
Je sais que tu aimes voir les rayons de soleil dans les causes sombres. Ah! Est-ce que le rayon de soleil dans cette cause-là, c'est qu'il va mourir en prison?
Je peux pas dire ça, Denis.
Moi, je peux.
Le rayon
cette
de soleil,
question.
Et j'aimerais... J'ai mention spéciale aux enquêteurs et aux personnels judiciaires qui travaillent ce dossier-là parce qu'il y avait un procès de 6 semaines prévu. C'était, vous l'avez vu, une cause difficile avec une défense qui pouvait choquer. Des victimes qui, eux, attendaient juste de mettre ça derrière elles. Et c'est Laureline Bureau et Olivier Simard, les enquêteurs dans ce dossier-là. Les procureurs étaient Maître Andréane Sirois et Maître Valérie Bélisard-Joseph, qui ont fait un travail quand même lourd et qui ont tenu à amener ça jusqu'au bout. Et finalement, on a réussi à aller chercher un plaidoyer pour éviter aux victimes de vivre ce procès-là qui allait être... excessivement dur.
Elles étaient soulagées, les victimes?
Très soulagées.
OK. C'est ça qui est important, dans le fond.
C'est tout ce qui est important.
Les membres du jury auraient eu à voir les vidéos?
Oui, puis c'est drôle parce
ils ont évité une balle, eux autres.
Eux sont arrivés jeudi matin en pensant commencer un procès. Donc, tu voyais l'air... C'était un jury qui était content d'être là.
Il y avait une mission à remplir.
Oui, puis c'était un jury relativement jeune. Donc, tu voyais qu'il était prêt, là. Puis ça a déboulé rapidement parce que là, bon, nos articles ont été publiés, eux, ils n'ont pas encore accès à leur cellulaire. Le juge dit seulement que, ben merci, mais vous allez être libérés. Il a plaidé coupable hier. Bonne journée. Eux, ils ne savent pas encore ce qu'ils ont manqué. Là. Ils ne savent pas les faits. Là. On ne leur a pas dit. Là.
Imagine, quand tu lis ça aujourd'hui, tu te dis, mon Dieu, je l'ai échappé belle.
Y a-tu un membre du jury qui nous écoute? 418-971-1021.
J'aimerais ajouter, c'est important parce que le jury est toujours accompagné là, pour de l'aide psychologique à travers ça, mais même avec de l'aide psychologique, je pense que tu ne peux pas oublier ce genre d'image-là. Là. Ouais.
Terrible. Je sais même pas si la question se pose, mais il y a un procès là, dans un dossier comme celui-là où une journaliste comme toi a le choix de regarder ou pas les images. C'est quoi ton choix par rapport à ça? Parce que j'imagine que ta couverture... Quoi, je sais pas. Je te pose la question.
Tu fais bien la poser parce que je me la suis posée moi-même avant de débuter parce que je le savais que ça allait s'en venir.
Mm-hmm.
Puis j'avais déjà été présente dans une salle de cours où on a décrit les vidéos. Puis je me rappelle avoir pas fini l'audience parce que je me disais, j'ai pas besoin d'être là. Puis les descriptions sont déjà tout à fait horribles. J'en avais discuté avec les procureurs. Fait que j'avais une idée de la gravité, en fait, des faits. Puis là, quand on arrivait au point où on allait peut-être voir les vidéos, ben moi, ce qui m'intéressait davantage, et c'est pour ça que je tenais à être présente, c'est de voir l'accusé réagir aux vidéos, de voir le jury réagir aux vidéos.
Ouais.
Parce que ça en dit long sur ce que tu penses puis ce que tu ressens.
Puis pour le genre de conversation qu'on a, justement, où tu essayes un peu de nous faire vivre ce qui se passe au palais de justice, c'est souvent la clé.
Puis justement, le juge, il y a eu un moment où il l'a dit qu'il a cassé dans le sens qu'il a comme un peu détourné le regard. Bien, moi, je veux savoir quand est-ce qu'il détourne le regard.
Mm-hmm.
Je veux savoir qu'est-ce qui provoque cette réaction-là parce que ça en dit long. Et c'est pour ça qu'on tenait à être là. C'est pas parce qu'on tient à... Je veux dire, il y a personne qui veut voir ça.
C'est pas de la curiosité morbide, puis c'est pas...
Je préfère moi-même tourner le regard que qu'on m'empêche, en fait, d'avoir des informations pour bien rapporter la nouvelle et justement de rapporter la gravité de ce dossier-là et des crimes commis par cet homme-là.
Il y a quelqu'un qui vient de nous texter une pensée à tous nos juristes, techniciennes et travailleurs obligés de voir ça et que ça fasse partie de leur, de leur quotidien.
On pense aux greffières, les huissières,
Eux autres, ils partent jamais,
les constables spéciaux. Tous ces gens-là étaient dans la salle et le regard et la pâleur des visages en dit long.
Eux, est-ce qu'ils ont de l'aide? Tu sais, tu parlais qu'il y avait de l'accompagnement pour certaines, pour les membres du jury.
J'imagine que oui, mais eux au moins ont signé pour ça en quelque sorte. Je veux dire, ça fait partie du travail. Là, c'est tu le sais que ça va peut-être arriver à un certain moment. Tu le sais que cet homme-là...
T'es peut-être plus prêt à ça.
Oui. Plus qu'un jury qui savait pas là, que c'était un film. Là.
Mon Dieu! Hey, merci, Judith.
Merci à vous.
Judith Desmolle, qui est journaliste pour Le Soleil, qui couvre les activités du Palais de justice. Sans faire de mauvaises blagues, mettons que ça a été un cadeau de Noël pour tout le monde, là, que les membres du jury, particulièrement les victimes, n'aient pas à entrer en contact avec les images ou à subir le procès avec tous les détails. Donc, 15 ans de prison. Pour Réjean Bacon, il est 17h04, on s'arrête pas longtemps, on revient. Vous êtes à Boulevard, c'est Gravel dans le retour. Gravel.